Vous écoutez On lit pour vous.
Construire pas cher, ça se peut. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 16 mai 2025, dans la presse. J'aurais pu consacrer toute cette chronique à la rénovation catastrophique du chalet d'un parc d'Outremont qui traîne depuis 6 ans et coûtera dans les 7 chiffres. Ou revenir sur le prix prohibitif des maisons des aînés, jusqu'à 1,8 million de dollars la chambre, un abysse financier signé le gouvernement Legault. Ou encore, décortiquer la facture sidérante du remplacement de feux de circulation à Longueuil, soit 1 million le poteau. Mais non, on va prendre l'affaire par l'autre bout de la lorgnette. J'ai envie de vous parler d'un grand projet qui va à l'inverse de cette tendance hyper-inflationniste. Asseyez-vous bien. Il a été réalisé sous les budgets annoncés et plus vite que prévu. Oui, ça se peut. En février 2024, je vous révélais l'existence d'un vaste chantier presque trop beau pour être vrai. Un projet inédit, piloté par l'homme d'affaires Luc Maurice et son organisme à but non lucratif, OBNL, Mission Uni-Aînés. L'idée allait comme suit. Bâtir 10 immeubles de 100 logements chacun, tous identiques, dans 10 villes québécoises, pour y loger des aînés à faible revenu. Ces bâtiments seraient ensuite donnés aux offices municipaux d'habitation des villes concernées. Pour faire ça simple, il s'agit d'habitations à loyer modique, HLM, d'un genre nouveau. Le loyer moyen des 3,5, soit la majorité des unités, sera de 662 $ par mois, Internet et électro compris. Le mode de réalisation de ces HLM n'a toutefois rien de familier. Ce projet a pu voir le jour grâce à un élargissement des critères d'octroi des subventions du Programme d'habitation abordable du Québec, PHAQ. L'objectif de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, était de faire une plus grande place à la philanthropie et à d'autres modèles dans la construction de logements abordables. Luc Maurice, devenu multimillionnaire grâce à son réseau de résidences pour aînés, a vite levé la main. Le philanthrope a exposé ses plans à la ministre. Elle lui a donné le feu vert, assorti de conditions sévères. Québec a octroyé une subvention de 235 millions, financée à 50% par Ottawa, à son OBNL. Mais tous les immeubles devraient être livrés dans un délai maximal de 24 mois, sous peine de pénalité. Aussi, tout dépassement de coût devrait être absorbé par M. Maurice lui-même. Un an et des poussières plus tard, je peux vous confirmer que le projet est sur les rails. Le train a quitté la gare depuis longtemps. Nous sommes beaucoup plus près d'un TGV que d'un tramway. Mission Uni-Aînés a tenu les cordons de la bourse bien serrés, à tel point qu'elle s'est retrouvée avec des millions de dollars disponibles. L'OBNL a donc été capable d'ajouter une 11e résidence, soit 100 logements supplémentaires à l'intérieur de la même enveloppe budgétaire. Quelques 1100 unités au total. Outre les 235 millions investis par l'État, les villes participent à hauteur de 38,5 millions, dont de terrain, préparation des infrastructures, etc., tandis que Luc Morris injecte lui-même 5 millions. Coût de construction moyen par logement, 255 000. On parle ici de vrais appartements, dans des immeubles de béton, dotés de jolies cuisines de mélamine, d'une abondante fenestration et d'un balcon privé. Les électros sont inclus dans la facture globale. J'ai visité un chantier cette semaine à Terrebonne et la qualité se compare tout à fait à celle d'un immeuble de condo de Griffintown ou Brossard. Cela mérite d'être souligné en fluo. Ce coût de construction est vraiment bas. Pour vous donner un ordre de grandeur, les projets de logements financés par le PHAQ reviennent en moyenne à 416 000 $ par appartement. Quant aux maisons des aînés, MDA, elles coûtent en moyenne 800 000 $ par chambre, sans cuisine, souvent beaucoup plus. Comment cela est-il possible? C'est là où le projet de Mission Unie Aînée se distingue totalement des chantiers publics traditionnels. Entre autres, des MDA construites par la Société québécoise des infrastructures, SQI. L'OBNL est parti d'un canevas à la fois très précis et très flexible. Il a proposé d'ériger des immeubles tous identiques, d'une forme classique, rectangulaire, ce qui limiterait les coûts de construction et permettrait des économies d'échelle. Aucun terrain n'a été identifié au départ. Les villes approchées par Mission Unie Aînée en ont offert un, en plus de payer certains frais de base, 3,5 millions en moyenne. Les municipalités les plus rapides et les plus intéressées ont remporté la mise. Les villes retenues avaient le choix entre trois couleurs pour la brique. Deux configurations leur étaient proposées pour l'emplacement des entrées. C'est tout. Pour le reste, pas d'ajout ni de demande spéciale pendant le chantier. Une grande marge de manœuvre a été laissée aux sous-traitants de l'OBNL pour livrer les immeubles à l'intérieur de l'enveloppe prédéterminée, m'a expliqué Caroline Souriol, PDG de Mission Unie Aînée, pendant notre visite à Terrebonne. C'est vraiment le cahier des charges qui fait la différence, dit-elle. Nous, ce qu'on prêche beaucoup, c'est de dire l'intention, mais de ne pas prescrire le moyen. Dire ce qu'on veut, et après ça, laisser les entrepreneurs trouver la meilleure solution, la plus efficace, pour atteindre l'objectif. Les 10 chantiers parallèles de l'OBNL, maintenant 11, ont été truffés de petites innovations trouvées en cours de route. Par exemple, le groupe Norexco, responsable de 2 immeubles, dont celui de Terrebonne, a identifié une solution plus économique, mais d'aussi bonne qualité, pour les portes intérieures du bâtiment. Une économie de 50 000 $ qui a ensuite pu être appliquée aux autres chantiers. Faites le calcul. Le rôle de Luc Morris a aussi été déterminant. Sous l'impulsion de ce ténor du monde des affaires, les sous-traitants ont accepté de revoir un peu leur marge. Tout le monde en tirera un profit, mais il n'y aura pas d'exagération, comme dans bien des chantiers publics. L'immeuble de Terrebonne, déjà très avancé, devrait être complété cet été, après une durée totale de 12 mois. Presque la vitesse de l'éclair dans l'industrie de la construction. Chaque journée de chantier supplémentaire coûterait environ 5 000 $. Le directeur de projet de Norexco, Dominique Desmarais, en est bien conscient. Il espère sincèrement que ce projet pourra servir d'exemple à d'autres au Québec. Rafraîchissant à entendre, je dois dire. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie du tout au privé ou à l'OBNL. Simplement de montrer qu'il existe des façons de construire des projets publics à un coût raisonnable, au bénéfice de toute la société. Il reste ironique de constater que deux chantiers aux antipodes, les HLM de Mission Unie Aînée et les Maisons des Aînés, ont été lancés par le même gouvernement. L'un innovant et économique, l'autre ruineux et hors de contrôle. Un peu de cohérence, s'il vous plaît, et de respect pour l'argent des contribuables. C'était « Construire pas cher, ça se peut », un texte de Maxime Bergeron, paru le 16 mai 2025 dans la presse.
Faire de la biodiversité un incontournable pour une urbanisation durable. Un texte de Sava Rogenier, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, 80 % de la population canadienne réside dans les milieux urbains, ces derniers représentant le berceau moderne de l'innovation et du développement économique. Ayant plusieurs zones urbaines et densifiées à travers le Canada, l'accès à la nature s'avère un aspect important de la vie urbaine pour les populations métropolitaines. Les villes dépendent des systèmes écologiques propulsés par diverses espèces. En même temps, les émissions de gaz à effet de serre produites par les infrastructures et industries urbaines nuisent à la biodiversité et à l'accessibilité de ces systèmes. Point de mire sur ces enjeux peu discutés et leurs solutions. Impact des populations. Suite à une prise de conscience publique sur la menace du réchauffement climatique, plusieurs agglomérations, au cours des dernières décennies, ont effectué la prise en charge de nouvelles initiatives qui ont pour but d'améliorer les pratiques et politiques employées à travers la ville à l'égard du traitement de la nature et son effet sur la biodiversité. Les populations aggravent le phénomène de la perte de la biodiversité urbaine. L'utilisation des pesticides, par exemple, exerce plusieurs impacts négatifs sur l'eau et l'air, et même sur la santé humaine. À leur tour, ces aspects naturels dégradés enchaînent la perte d'une quantité d'espèces et donc de la biodiversité. Ainsi, la France interdit l'utilisation des pesticides et produits chimiques dans certaines zones urbaines. Dans le contexte d'une crise immobilière et d'une population en croissance rapide, le développement urbain atteint dans nos agglomérations un taux sans précédent. L'urbanisation rapide ignore souvent la préservation d'espèces et de systèmes présents sur les terres. L'excavation et la destruction du relief peuvent non seulement affaiblir ces systèmes, mais ils peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. La vie urbaine est associée à la dépression et l'anxiété, entre autres. Un lien direct a été scientifiquement établi entre la santé humaine, notre qualité de vie et l'accès à la nature. Il paraît alors impératif que l'accès à un écosystème biodiversifié, capable d'améliorer la santé, soit préservé. La ville est un écosystème à part entière. Selon l'agenda de la Construcció Sostenible, Agenda pour construction durable, une agence catalane basée à Barcelone, il faut percevoir la ville comme son propre écosystème unique, ainsi en tant que nouvelle introduction à la vie sur Terre. Chaque ville possède ses caractéristiques individuelles. Le relief, l'environnement ou le climat changent d'une région à l'autre. Dans ce cas, les enjeux qui font face à une société particulière changeront en fonction de ses attributs. Les solutions qui permettront de traiter la perte de la biodiversité, elles aussi, ne pourront être appliquées en forme de couverture pour chaque ville ou nation. Dans un rapport publié par le Fonds pour l'environnement mondial abordant la biodiversité urbaine, une analyse courte de l'impact de la biodiversité sur la qualité de vie affirme que la ville de Vancouver a pu retenir en grande partie sa beauté naturelle et a pu produire de nouveaux espaces urbains où les espèces autochtones puissent vivre. Grâce à ses politiques d'aménagement et d'urbanisme révolutionnaire, dites « vancouverisme », la ville a pu inspirer l'Amérique du Nord à construire leur nouveau développement à haute densité en intégrant des aspects naturels. Ceci propose non seulement une accessibilité pour la population à la nature, mais propose aussi un environnement pour les espèces avec une réduction de prédateurs potentiels et un accès aux structures sécuritaires nécessaires pour survivre. Mais la ville de Vancouver et sa région ne s'arrêtent pas là. La préservation de la biodiversité a été identifiée comme priorité dans le cadre de l'aménagement municipal à plusieurs reprises, que ce soit pour les nouveaux développements ou le traitement des ruisseaux et rivières. La municipalité s'engage dans plusieurs projets et initiatives tels que plantation d'arbres et reconstruction de voies d'eau. La certification LEED, par exemple, est un système d'évaluation reconnu sur le plan international, signifiant l'excellence dans la construction durable pour les bâtiments et immeubles. Il permet d'assurer la durabilité des développements et la réduction des impacts sur les espèces dans le but de préserver la biodiversité indigène du milieu, entre autres. C'était « Faire de la biodiversité un incontournable pour une urbanisation durable ». Un texte de Sava Rogenier, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.
Rêver grand en dansant. Une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, parue le 25 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Originaire de Montréal, Brianna Donolo, alias Rêve, fait vibrer la scène musicale danse canadienne depuis près de 2 ans, dès la sortie de ses premiers tubes Still Dancing et Control Alt Delete. Celle qui a d'abord attiré l'attention en chantant des hymnes nationaux avant les matchs de hockey à Montréal comme à Toronto et en jouant sur des mash-ups avec des paroles originales sur TikTok a par la suite signé un contrat avec Universal Music Canada. En 2023, elle reçoit une nomination au prix Juno dans les catégories Révélation de l'année et Choix du public TikTok et remporte un prix pour l'enregistrement Dance de l'année. À 27 ans, la jeune femme s'apprête d'ailleurs à sortir un premier album à l'automne. D'ici là, vous aurez la chance de danser sur ses succès lors de la cérémonie de clôture de Fierté Montréal le 13 août 2023. Entrevue avec Rêve. Pourquoi avoir choisi le mot français « rêve » comme nom d'artiste? Rêve. Je voulais un nom qui encapsulait le sentiment que je voulais émuler dans mes chansons. Je ressens un élément d'évasion et de transcendance quand je crée et j'écoute de la musique dance qui ne se compare dans mon esprit qu'à un rêve. Aussi, je voulais un nom français pour rendre hommage à Montréal. Justement, le 13 août 2023, tu seras la tête d'affiche du spectacle de clôture de Fierté Montréal. À quoi le public peut-il s'attendre? Rêve. Je suis tellement excité, c'est un honneur pour moi d'être la tête d'affiche de la fierté dans ma ville natale. J'ai assisté à beaucoup de fierté et j'ai passé beaucoup de temps dans le village. Nous avons mis tous nos efforts dans ce spectacle et ça va donner l'effet d'un stadium tour. Ça va être électrifiant. Est-ce que tu vas lancer un nouveau single ou un album pour l'occasion? Rêve. Nous venons tout juste de lancer le nouveau single « Big Boom » et il y aura 2-3 autres singles qui seront lancés avant la sortie de l'album, cet automne. Mais je ne peux pas dire le nom de l'album maintenant. C'est quand même une chance, car les labels aujourd'hui ne lancent que très peu d'albums, favorisant les singles. Rêve, je sais, je suis tellement chanceuse. Tout ce que j'ai fait avec cet album est tellement délibéré. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans cet album. C'est aussi une lettre d'amour à la musique dance et à Montréal. Ton cheminement de carrière est intéressant. Au dernier Juno, tu as remporté le prix de l'enregistrement dance de l'année. Rêve, c'est tellement irréel encore aujourd'hui. C'est rare dans cette industrie que tu as quelque chose de tangible à montrer pour tout ton dur labeur, donc de gagner un Juno, j'en suis très fière et reconnaissante. Où vois-tu ta carrière dans 5-10 ans? Rêve. C'est une de mes questions préférées. J'espère avoir plein d'albums réalisés et rejoindre tous mes fans à travers le monde et connecter avec eux sur la route. On tour, car c'est la partie la plus fun de la job. J'ai vraiment apprécié ton clip vidéo Headphone. J'ai reconnu les rues de Montréal, New York et Londres. Et à la fin, on parle aussi de Paris et de Mexico. Avez-vous vraiment tourné le clip dans toutes ces villes? Rêve. Nous avons tourné à Londres et à Montréal. Pour le reste, c'est CGI Computer Generated Imagery. 16 Pads a réalisé la vidéo et Pat Rick a fait un très beau travail. Il est vraiment doué et il a rendu le tout très convaincant. Alors, c'est génial. Je participe aussi aux idées créatives de mes clips. De tout, en fait. Du début à la fin, tous les détails que tu vois, les pochettes d'albums, les clips, les vêtements, les chansons, je suis très impliqué. La musique a ce pouvoir de libérer les gens et des événements comme Fierté Montréal peuvent être des catalyseurs pour une prise de conscience importante de l'identité chez de nombreux jeunes et moins jeunes. Pourquoi est-ce important pour toi de participer à un tel événement? Rêve. C'est très significatif pour moi. J'ai fait mon coming out l'an dernier en tant que bisexuel et j'ai été capable de le faire car j'étais soutenu par l'extraordinaire communauté queer que nous avons au Canada. Je voulais faire partie de cette communauté et j'en suis très fier, même si ça m'a pris beaucoup de temps à accepter. Je veux juste que les jeunes n'aient pas peur. Il y a une belle communauté qui vous attend. Une tribu aimante, votre famille choisie, même si vous avez des moments difficiles avec votre famille. Justement, ton clip « Skin to Skin » fait référence à la bisexualité dans la façon dont les couples sont présentés et dans ta chanson « Tong », tu chantes « She will drive me out of the goddamn closet ». Rêve. Tout à fait, et elle l'a clairement fait. Je dois dire que c'est avec cette chanson que j'ai fait mon coming out à ceux qui ne le savaient pas encore parmi ma famille et mes amis. Je me sentais confortable de chanter à propos d'une femme selon une expérience que j'avais vécue et cette chanson m'a libéré l'an dernier. Bien sûr, certains le savaient, mais parfois la sexualité peut être une conversation difficile, surtout avec sa famille. Donc ça a ouvert les portes à la conversation et ils ont été extraordinaires à ce propos. Je dois dire que ton clip Tang me rappelle un peu celui de Katy Perry, I Kissed a Girl, mais en moins naïf, plus mature, hypersexuel et dans une soirée queer. Quelles sont vos inspirations en tant qu'artiste? Rêve. Vraiment, j'ai beaucoup d'influences diverses. Je m'inspire de Robin. J'admire cette idole pop scandinave, une de mes artistes préférées. Aussi Tove Lo, Lady Gaga, Madonna. C'est très divers. J'ai été chanceuse de grandir dans un environnement musical. Et nous pouvons dire Whitney, j'imagine, en référence à ta chanson éponyme. Rêve, bien sûr, et tout le monde cité dans cette chanson. Ta chanson est un hommage à Whitney, bien sûr, mais aussi à Every Woman, It's All in Me. Comme tu le chantes, cite Whitney Houston. Parlant de femmes, l'industrie de la musique n'est pas toujours facile pour une jeune femme de la diversité sexuelle. Rêve. Je crois qu'il a un certain niveau de misogynie partout, mais particulièrement dans cette industrie. On doit se battre davantage, mais tu gagnes le respect lorsque tu es entouré des bonnes personnes. C'est vraiment important de s'entourer d'une équipe qui te soutient, car c'est facile de se perdre. Je suis très chanceuse d'être avec un groupe de personnes si fabuleuses, hommes, femmes, queers, non-queers. C'est un groupe diversifié de gens qui me protègent et qui sont honnêtes et vrais. C'était « Rêver grand en dansant », une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Fugue.